Je me réjouis beaucoup de me retrouver de nouveau dans ma chère bibliothèque de la rue de Turenne, à laquelle j'étais déjà affectivement attachée du temps de Michel Rochevitch, et cela continue avec vous qu'il avait si bien reprise. Une amie historienne romaine m'a dit un jour avec véhémence « Napoléon III, ce traître à la cause italienne que tout le monde déteste en Italie. » J'ai bien tenté de rappeler qu'il avait été sympathisant Carbonaro durant sa jeunesse. Oui, mais après Villafranca, il a trompé l'espoir de tous les patriotes. Et pourtant, vois la grandeur italienne. En 1870, quand les Prussiens ont envahi la France, Garibaldi est allé en personne aider Napoléon III à les combattre sur le sol français. N'avait-il rien fait de bon? Et fallait-il avec Victor Hugo vilipender le nain immonde? J'ai à cœur de vous présenter le vrai personnage qu'il fut et quel fut son rôle, très important, dans l'unification de l'Italie. Il y fut en résonance avec Mazzini, Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele II, pour nous Victor Emmanuel Ier, et je dirais indistinctement l'un ou l'autre. Et il m'a semblé intéressant de vous présenter les deux points de vue des événements, le français puis l'italien, en concluant sur quelques petits points conciliateurs. Le point de vue français. Louis-Napoléon, futur Napoléon III, né en avril 1808, est le dernier fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande, et d'Hortense, fille de Joséphine. Il est donc neveu d'empereur et fils de roi. Sa vie et celle de son frère vont basculer après l'abdication de Napoléon en avril 1814. « Mes enfants, leur dit Hortense, vous n'êtes plus rien. » C'est encore plus définitif en 1815 après Waterloo. Hortense et son fils Louis-Napoléon s'installent en Suisse au château d'Arenenberg, puisque la loi d'exil qui touche tous les Bonaparte leur interdit de rentrer en France. Louis-Napoléon, jeune homme de bonne famille et prince en exil, a un précepteur qui est un ancien jacobin qui va lui inculquer l'idée démocratique de la souveraineté populaire, fondement de la légitimité des gouvernants. Puis il va au lycée. Alors qu'il a 15 ans, paraît le mémorial de Sainte-Hélène. Napoléon s'y présente comme le défenseur du droit des peuples, ce qui est un peu abusif, mais il a bien créé des masses de granit, le code, les institutions. Tout cela et son entrée à l'école militaire de Berne le nourrit. En novembre 1830, sa mère l'amène vivre à Rome. Il y retrouve son frère et tous les Bonapartes entourant Madame Mère en son palais Piazza Venezia. L'Europe est alors cadenassée par le congrès de Vienne de 1815. Louis-Napoléon et son frère, interdits de territoire français, rêvent d'agir politiquement, mais en faveur d'une Italie souffrante, courbée sous le joug du pape au centre, de l'Autriche au nord et des vieilles principautés. Tout cela les rapproche de cette première génération romantique et libérale des jeunes nationalistes italiens, les Carbonari, une société secrète dont le but était de forcer l'indépendance de la péninsule par la destruction de tout pouvoir absolu. Mais on les laisse un peu en marge des combats à cause de leur nom, Bonaparte, dont on se méfie. Cependant, en 1830, certains Italiens rêvent aussi de s'emparer de Rome et d'offrir le trône au fils de Napoléon, l'ex-roi de Rome, avec un Louis-Napoléon régent en attendant. Résultat, Louis-Napoléon est expulsé de Rome en 1831. Il persiste à s'engager pour la libération de l'Italie et participe avec son frère au soulèvement de la Romagne aux côtés des insurgés. C'est une défaite, suivie d'une répression très dure, qui conduit les deux frères à se replier sur Bologne, puis à se réfugier à Forlì, où le frère de Louis-Napoléon meurt de la rougeole. Hortense vole depuis la Suisse, avec de faux passeports, jusqu'au chevet de son fils survivant, et traverse avec lui, travestie en laquais, toute l'Italie, jusqu'à arriver clandestinement en France. Elle obtient une entrevue secrète avec le roi Louis-Philippe. Il est aimable, mais refuse toujours d'accueillir des membres de la famille Bonaparte sur le sol français. Hortense et son fils se rendent à Londres, puis regagnent la Suisse. L'image de Louis-Napoléon est alors très favorable auprès des Italiens. On loue ses sentiments nobles et généreux dignes de son nom. Lui, brûlant d'être actif, fait deux tentatives de coup d'État, avortées et hautement réprouvées par toute sa famille. À la seconde, à Boulogne, en août 1840, la sanction est très lourde, l'enfermement à perpétuité au fort de Ham. Voulant de son cachot diffuser ses idées, il écrit en 1830 « Idées napoléoniennes », en 1844 « Extinction du paupérisme. Il s'y montre là, désireux de réduire la pauvreté, d'améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière, s'inscrivant ainsi dans un courant généreux, mais d'autres, du prince de Monaco en 1839 jusqu'à Armand de Melun en 1848, se pencheront sur cette grave question sociale. Et puis, au bout de 6 ans, il s'évade sous les habits d'un plâtrier et, à Londres, The Victim of Reflips, comme on disait, reprend ses activités politiques. Nous sommes dans la tumultueuse année 1848, des printemps des peuples éclosent en Europe. En France, Louis-Philippe est éjecté et Louis-Napoléon devient prince-président, élu avec 75% des voix au suffrage universel. Mais il ne peut compter malgré tout que sur une poignée de députés. Alors, il va laisser son opposition gérer la crise de Rome. Un soulèvement avait éclaté dans la ville éternelle, chassant Pie IX et instaurant une république romaine autour de Mazzini et de Garibaldi. L'Assemblée obtient l'envoi d'un corps expéditionnaire qui libère Rome, s'y installe durablement et rétablit l'autorité pontificale. Louis-Napoléon est sans doute déchiré, mais pragmatique, et donc du côté de l'ordre pontifical, même si celui-ci devait dans son esprit s'accompagner de réformes libérales qui n'auront pas lieu. Quoi qu'il en soit, pour les patriotes italiens de la Révolution de 1848, la France a assassiné la République romaine. Et il leur faudra trouver une autre voie pour gagner. Cependant, en France, Louis-Napoléon n'est élu que pour 4 ans et est très bridé par l'Assemblée. Aussi renforce-t-il son pouvoir par un coup d'État le 2 décembre 1851 en la dissolvant. Puis, le 7 novembre 1852, sur proposition des sénateurs, est rétablie la dignité impériale avec hérédité. Le prince-président devient empereur, légitimant a posteriori son coup d'État par un plébiscite qui l'élit avec 96% des voix. 4 ans plus tard, Eugénie lui donne un fils dont le parrain est Pie IX. Que d'émotion pour l'empereur en 1856. Il a un fils. Et puis, il y a le traité de Paris qui met fin à la guerre de Crimée, terrible, qui a duré 2 ans et qui fut la première communauté d'intérêt entre Vittorio Emmanuel et roi de Sardaigne et Napoléon III. En effet, en 1854, l'Empire ottoman avait obtenu l'aide de la France, du Royaume-Uni et du Royaume de Sardaigne dans sa lutte contre l'expansionnisme russe en mer Noire et dans les Balkans. En 1856, la France a retrouvé sa place au cœur des nations. Napoléon III n'est plus regardé avec méfiance. Il est devenu l'arbitre des affaires européennes. Et comment s'était fixé son caractère à l'acmé de sa vie aventureuse et assez épique? Un réel courage physique et du sang-froid. Mais il préférait contourner les obstacles. N'oublions pas son passé de comploteur et de prisonnier, qui, outre qu'il avait le regard voilé de sa mère, a pu accentuer un côté impénétrable. Il est bon, fidèle en amitié, saint-simonien dans l'âme. Il parle français avec l'accent allemand, anglais, italien, cultivé et curieux de tout jusqu'à écrire un bon livre sur Jules César, ouvert au progrès et aux recherches, il développe le chemin de fer, promeut des expositions universelles à Paris qui ont un immense succès en Europe. Tout cela au milieu de très nombreux attentats fomentés contre lui, soit qu'il relève de luttes intérieures, soit qu'il soit lié à sa politique italienne. Mazzini, le chef des sociétés secrètes, avait condamné Napoléon III à mort pour trahison. En le tuant, il pensait déclencher une révolution en France et par contagion, un soulèvement en Italie. D'où, en 1858, l'explosion sur le passage du couple impérial de la machine infernale de Felice Orsini, qui va de fait obliger Napoléon III à prendre position pour l'Italie. Tout en libéralisant le régime en France, il enclenche le processus de la guerre d'Italie, hors protocole, dans la ville d'Eau de Plombières, où il a une entrevue secrète avec le grand ministre Cavour, dont l'idée est d'unifier la péninsule sous la maison de Savoie de Vittorio Emanuele, roi de Piémont-Sardaigne, en libérant l'Italie de la présence autrichienne avec l'aide d'une grande puissance, la France. Napoléon III accepte de mettre en place une alliance militaire entre la France et le Piémont, et aussi la création d'un royaume d'Italie du Nord sous la maison de Savoie. Le reste de l'Italie étant organisé avec une Italie centrale, la Toscane, les Marches, l'Ombrie, les États de l'Église réduits à Rome et au Latium, le royaume des deux Siciles laissé aux Bourbons, ou donné à un Murat, en échange de son intervention, qui devait avoir lieu à la suite d'émeutes, à Parme et à Modène, la France recevait Nice et la Savoie. Il y avait quand même une consultation des habitants. On arrange enfin un mariage de son cousin avec la fille du roi. Mais la prudence est réciproque. Pour Cavour, l'empereur ne peut à la longue se faire d'illusions sur les sympathies des souverains des vieilles dynasties. Il ne peut compter que sur les peuples qui aspirent à reconquérir leur nationalité, à la tête desquels le Piémont est placé. L'empereur, lui, est déterminé à appuyer le Piémont-Sardaigne dans une guerre contre l'Autriche, mais pourvu que cette guerre fût entreprise pour une cause non révolutionnaire. Les Autrichiens déclarent la guerre le 23 avril 1859. La France et le Piémont-Sardaigne la leur déclarent en retour et gagnent. À Magenta, d'abord, qui permet l'entrée triomphale des Français dans Milan, où la population acclame Napoléon III libérateur. Un bataillon français de zouaves, déjà héroïque durant la guerre de Crimée, fait montre de la fameuse furia française. Il ne faut pas les confondre avec les zouaves du pape, créés plus tard, volontaires et venus de toutes les terres de la chrétienté. Certes, la Lombardie est libérée et l'Italie centrale se soulève, mais l'armée autrichienne reste très forte en Vénétie. Quand une nouvelle bataille s'engage à Solferino, les Français ont l'avantage mais perdent des milliers d'hommes. De plus, apparaît en Italie une flambée révolutionnaire qui mobilise immédiatement la droite française contre l'aventure de Napoléon III et la Prusse menace d'intervenir. Alors Napoléon III, de son propre chef, signe des préliminaires de paix prévoyant sous la présidence d'honneur du Saint-Père une confédération italienne, non de quatre mais de sept États, dont la Vénétie restant dominée par l'Autriche. C'est l'armistice de Villafranca. Le 8 juillet 1859. Cavour démissionne, le roi est furieux et les Italiens révulsés par cette reculade. Malgré tout, Napoléon III voudra toujours jouer un rôle important dans la péninsule et continuer d'encourager Vittorio Emanuele dans sa marche vers l'unité. Par des annexions. Marche vers l'unité qu'il voulait faire par des annexions. Empêchant aussi que ne se forme à la demande de l'Autriche une coalition européenne qui serait intervenu contre la nouvelle Italie. Le 24 mars 1860, par le traité de Turin, la Savoie et Nice avaient rejoint la France. Napoléon III va reconnaître le royaume d'Italie, proclamé le 18 février 1861. S'il ordonne en 1864 le départ des troupes françaises de Rome, en 1867, poussé par les catholiques français et son épouse Eugénie, il renvoie une division française défendre Rome contre les Garibaldiens. Celle-ci et les zouaves pontificaux battent les Garibaldiens à la fameuse bataille de Mentana le 3 novembre 1867. Mentana donnera un sursis de 3 ans à l'État pontifical. En 1870, alors que l'empereur aura tant besoin d'alliés, Vittorio Emanuele refusera son soutien à celui qu'il appelait le pauvre Napoléon, n'envoyant que quelques partisans, dont Garibaldi, et profitant du départ de la division française pour occuper sa nouvelle capitale le 20 septembre 1870. Alors, avant de vous parler du point de vue italien, juste vous montrer les principaux protagonistes, bien sûr Napoléon III, puis vous avez deux images de Carlo Felice, vous en avez aussi de Victor Emmanuel II, et puis vous en avez un entre les deux, qui est Carlo Alberto. Et je les ai prises à Cagliari, qui était là où résidait le vice-roi, puisque la famille royale était à Turin à l'époque. Et donc, j'ai visité là, en avril, le palais du vice-roi. C'était très intéressant. C'est de l'art un peu provincial, un peu exagéré, du baroque devenu un petit peu tarte à la crème. Mais c'est très joli. Et puis surtout, il y a de très très beaux tableaux, comme vous voyez, de très beaux meubles. Le point de vue italien. Il nous faut commencer par Carlo Alberto, le père du futur Vittorio Emanuele II. Carlo Alberto, qui n'est pas devenu roi d'Italie, étant resté roi de Sardaigne, mais aura au moins tenté l'impossible. Pendant que les Savoies partent en Sardaigne à la suite de l'invasion française, ses parents se transfèrent à Turin où il naît en 1798, puis la famille est otage à Paris sous surveillance policière. Arrive en 1815 le congrès de Vienne qui redonne ses états au roi de Sardaigne ainsi que la Ligurie, mais la République de Gênes n'est pas reconstituée et on donne à l'Autriche la Vénétie. Carlo Alberto, devenu l'unique héritier selon la loi salique, s'établit à Turin. Il y est bien accueilli par Vittorio Emanuele Primo, malgré son éducation libérale, que le pape regarde aussi avec indulgence. Son fils, Vittorio Emanuele, futur secondo donc, naît en 1820. En mars 1821, les jeunes libéraux voient en Carlo Alberto un réformateur de la dynastie et ils planifient que soldats et carbonari, guidés par lui, visent le château de Montcalieri où se trouvait le roi Vittorio Emanuele Primo, pour lui imposer de signer la Constitution. Cela avorte. Alors, on tente de soulever l'armée pour imposer au roi d'entrer en guerre contre l'Autriche, Carlo Alberto étant médiateur entre eux et le souverain. Carlo Alberto réalise l'absurde de l'entreprise et révèle le plan au roi, lequel abdique en faveur de son frère Carlo Felice, confiant la régence à Carlo Alberto, qui avait cherché à tenir à distance les carbonari pendant qu'il criait ou la Constitution ou la mort. Constitution concédée le lendemain pour ne pas subir la fureur populaire. Carlo Alberto a comme lancé un message d'absolue disponibilité. Il est dès lors un phare d'espérance. Cependant, à l'intérieur, on veut l'empoisonner. Le duc de Modène veut le priver de la succession. Carlo Felice le rejette comme un intouchable. En bref, un conseil de famille avec Vittorio Emanuele Primo et Carlo Felice le juge coupable, mais on ne l'élimine pas de la succession. À Florence, où Carlo Alberto part vivre avec sa famille, drame, le berceau du petit Vittorio Emanuele, d'un an et demi, prend feu. Peut-être pour donner à son père le conseil violent de se mettre sur les rails de la Restauration. En 1831, Carlo Felice, qui lui a pardonné, meurt et Carlo Alberto devient roi de Sardaigne. En 1844, son fils Vittorio Emanuele se marie et va lui naître Umberto. En 1846, et malgré le veto autrichien, le libéral Pie IX devient pape. Le roi fait des réformes, crée les Bersaglieri. En 1847, quand l'Autriche occupe Ferrare, Carlo Alberto propose son aide au pape et on moque alors son jeu hésitant. Puis, c'est 1848, année marquante. À Palerme, on doit concéder la Constitution. En France, Louis-Philippe est chassé. Milan se soulève, puis Venise, Berlin, Vienne. Carlo Alberto va soutenir la Lombardie et la Vénétie. Flanqué de ses deux fils, il se bat, perd, et on l'exècre. En 1849, reprise des hostilités, mais les Italiens dispersent leurs énergies, défaite, et le roi abdique, pour sauver en fait les réformes données à son peuple, s'exile et meurt. Et voici Vittorio Emanuele, qui a vécu à Nice, puis à Florence. C'est un très bon soldat, mais que son père avait tenu à l'écart des affaires de l'État. Travesti en campagnard, il va se passionner comme son frère Ferdinando pour l'agitation politique de 1846-47 et se conduire avec valeur quand la France va décréter l'occupation de Rome. Les Italiens appellent cela la première guerre d'indépendance. S'ensuit une anarchie dans le pays et quand la paix arrive, le roi est bien isolé, mais toujours réformateur. Ainsi pour une séparation juridique de l'Église et de l'État. À l'extérieur, il signe des traités d'amitié, dont en 1850 avec la France. Quand le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon devient l'empereur des Français Napoléon III, le roi le complimente. Mais alors les autres gouvernants d'Italie s'acharnent sur ce roi jacobin, l'Autriche parlant de trahison piémontaise. S'affirme cependant l'idée qu'il n'y a que Vittorio Emanuele et Cavour pour faire l'unité. En 1854-56, guerre de Crimée, au cours de laquelle le roi est accueilli avec pompe à Paris. En août, le roi est reçu à Saint-Jean-de-Maurienne pour l'inauguration d'un trajet ferroviaire commun. Janvier 1858, c'est l'attentat d'Orsini contre Napoléon III. Le roi est désolé et Cavour présente une loi punissant l'apologie de l'assassinat politique et de la conspiration contre la vie des souverains. Pour resserrer encore les liens avec la France, c'est l'entrevue de Plombières, afin de discuter des questions italiennes, débouchant sur le traité d'alliance que vous savez, en janvier 1859. C'est alors, toujours pour les Italiens, la deuxième guerre d'indépendance. Victoire des Français et des Sardo-Piémontais aux batailles de Montebello, Palestro, Magenta, et Milan fête l'allié libérateur Napoléon III. L'effet domino continue, les Autrichiens sont battus à San Martino où le roi commande personnellement, à Solferino où combattent majoritairement les Français, et puis c'est la « entre guillemets trahison » de l'armistice de Villafranca. Le roi accepte cependant prudemment la Lombardie, mais une fédération à la Napoléon III lui semble utopique. Que faire des provinces soulevées voulant s'unir au règne? Que faire des princes dépossédés dont la population ne veut plus? Et puis, on s'offusque, que Venise entre dans la Confédération comme une puissance. Cependant, l'Autriche et les princes dépossédés font appel à Napoléon III, trouvant Vittorio Emmanuel ambitieux et subversif. Napoléon III, lui, écrit au pape qu'il devrait donner la liberté aux populations des légations, c'est-à-dire des territoires sous autorité papale. Et le roi renchérit. Le pape répond que c'est de l'usurpation et qu'il est lié par serment de ne pas diminuer le patrimoine de l'Église. Donc, le concept fédératif de Napoléon III est ruiné par les réticences du pape. Napoléon III accepte Nice et la Savoie, car c'est un agrandissement glorieux pour la France, mais aussi car il voit combien c'est fructueux pour le roi d'avoir acquis les fertiles plaines lombardes. Le port de Nice, qui fut pour le roi l'unique accès à la mer, donc à la Sardaigne et à toute la Méditerranée, avec l'acquisition de la Ligurie, n'est plus indispensable, car il y a désormais Gênes, La Spezia, Savone et Porto Maurizio. La maison de Savoie a repris son éclat avec un lustre nouveau constitutionnel. À diviser, la péninsule était toujours l'État pontifical. Dès avril 1860, le ministre de la guerre du pape appelle à l'aide les catholiques de tous les pays et les volontaires affluent. Le roi se déclare prêt à libérer les provinces italiennes de ces « compagnies étrangères d'aventure » qui sont d'abord battues. Cavour rappelle au gouvernement étranger que, malheureusement, la paix de Villafranca ne peut embrasser qu'une part de l'Italie. Le pape menace le roi d'excommunication. Comment d'ailleurs doit s'appeler le roi? Vittorio Emanuele Ier re d'Italia? Par gratitude envers ses prédécesseurs, il choisit Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio et per volontà della nazione re d'Italia. Le 21 mars 1861, le royaume d'Italie s'est constitué, mais il y a toujours la question de Rome et de la Vénétie. Cavour meurt. Outre ses condoléances, Napoléon III joint la reconnaissance officielle de la France du règne d'Italie. En août 1862, Garibaldi, qui a déjà conquis la Sicile au nom du roi, lance une expédition contre Rome, « O Roma, o morte ». Mais le roi la désapprouve et on trouve un compromis. Turin étant désormais trop décentrée pour une capitale, Florence la remplace. En échange, l'empereur lâche prise sur Rome en faisant partir les troupes françaises en novembre 1865. Cependant, en 1866, le prince Umberto sonde Napoléon III sur la guerre qui couve entre l'Autriche et la Prusse. Et commence pour les Italiens la troisième guerre d'indépendance contre l'Autriche. Cette dernière offre Venise à l'Italie si elle ne s'allie pas à la Prusse. Mais c'est trop tard pour une question d'honneur. La guerre éclate. Et pour les Italiens, c'est un désastre. Napoléon III fait annoncer sur le moniteur officiel que l'Autriche lui offre Venise, mais que lui la remet au roi d'Italie, ce qui blesse l'orgueil italien. Cependant, à la suite de l'armistice que l'Autriche est contrainte de signer, la Vénétie est annexée au royaume d'Italie. Restait toujours la question romaine. Un accord européen aurait compliqué les choses. Le Sénat italien implore le pape de sauver Rome de l'anarchie et de la confusion. Vittorio Emanuele II ne veut pas occuper Rome sans l'accord de Napoléon III. Garibaldi n'arrive pas à soulever Rome et est battu à Mentana. Et pour les patriotes, Mentana efface Magenta. Le roi veut trouver une solution, mais sans courber la tête. En septembre 1869, le roi promet son aide à Napoléon III dans le cas d'un éventuel conflit, mais en se réservant les droits de l'Italie sur Rome. Napoléon III refuse toujours que la France retire ses troupes de Rome. Quand en 1870, il a besoin d'aide lorsqu'il est en guerre contre la Prusse, le roi est plutôt d'accord pour aider celui qui, même avec plusieurs incidents de parcours, avait élargi son horizon. Mais l'Italie ne pouvait sortir de son statut neutre et puis les événements furent trop rapides. Épilogue. 20 septembre 1870, c'est la brèche de la Porta Pia, parenthèse, mais sans doute le savez-vous en majorité, c'est le mur du jardin de l'actuelle ambassade de France près le Saint-Siège, qui était la demeure de Pauline Borghèse. C'est la brèche de la Porta Pia qui ouvre Rome aux Bersaglieri. Les troupes françaises et les zouaves pontificaux quittent Rome pour combattre en France contre la Prusse jusqu'à la défaite de Sedan. En février 1871, Rome est la capitale de l'Italie. En 1873, meurt en Angleterre Napoléon III. Et l'Italie envoie le général Piola Caselli pour représenter l'armée. Peu après, quand le roi arrive à Berlin, accueilli par Guillaume Ier de Prusse, déjà proclamé empereur d'Allemagne, au dîner de gala, il confiera que ses ministres ne l'auraient retenu, il serait accouru au secours de Napoléon III. Et le Prussien lui donnera une vigoureuse poignée de main. En conclusion, pour les Italiens, les événements de 1830 à 1870 sur leur territoire, bien morcelés, hein, d'abord en 8, puis en 4, 3, 2, 1, ces événements sont un risorgimento, une renaissance, en trois guerres d'indépendance. Si Villafranca tombait comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, est devenu un traumatisme que répercutent les livres scolaires, on comprend bien que Napoléon III ne pouvait pas continuer à lutter contre l'Autriche qui était loin d'être défaite. Et puis les Français avaient déjà versé beaucoup de leur sang. Bien sûr, il y a Mentana, les zouaves pontificaux se battant contre les Garibaldiens. Quand je me suis rendu à Mentana, près de Rome, j'ai vu d'ailleurs que des députés français avaient fait apposer une plaque contrite. Mais du point de vue du pape, le Risorgimento a lacéré l'unité spirituelle de la péninsule et Rome a été prise de force. Et le petit peuple romain, quant à lui, reprochera longtemps l'annexion de Rome au profit du royaume de Piémont-Sardaigne. Louis-Napoléon est né en 1848, Carlo Alberto en 1798 et Vittorio Emanuele en 1820. Mais je vois des similitudes entre Carlo Alberto et Louis-Napoléon. Le courant romantique et libéral qui traversait la jeunesse dans les années 1820-30 les a touchés tous deux et leur a suscité, aussi dans leur propre famille, autant d'ennemis qui ont employé des moyens radicaux pour les éliminer. Le berceau du petit Vittorio Emanuele qui prend feu pour donner un conseil violent à Carlo Alberto. On pense à l'attentat d'Orsini pour infléchir à la politique italienne de Napoléon III. On a aussi tous deux voulu les empoisonner. Il y a aussi pour les deux un doute sur leur filiation. Vittorio Emanuele fut-il substitué par son frère de lait? Quant à Louis-Napoléon, à cause de la mésentente de ses parents, il fut soupçonné de ne pas être le fils de son père, Louis. Il est avéré maintenant, c'est en tout cas ce que m'avait dit le grand conservateur Bernard Chevalier, qui malheureusement maintenant n'est plus. Il est avéré maintenant que si, mais que Louis ne fut pas le fils de son père Charles. C'est l'ADN qui nous l'a appris. Il y a enfin des traits de caractère. Carlo Alberto surnommé le Retentena, le roi hésitation, et Napoléon III, qu'on trouvait entêté dans l'indécision. C'est que leur jeunesse libérale et enthousiaste devra, en disparaissant, se heurter à une réalité les obligeant à composer dans un jeu complexe. Le rêve qui amena à cette belle Italie unifiée fut grand des deux côtés.